9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, 10e jour de grève dans les transports et pas de retraite en vue à Bruxelles. Emmanuel Macron défend sa réforme.
C'est une réforme historique pour le pays. Historique pour la refondation d'un État-providence du 21e siècle.
Le président convoque l'histoire tandis que le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, en appelle à l'intérêt général et au service public.
Je demande à ceux qui sont dans le mouvement de réfléchir à faire une pause pendant les fêtes.
Une pause pour qu'il puisse y avoir des trains à Noël. Mon premier invité sera le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure. L'UNSA, organisation dite réformiste, est le premier syndicat dans les transports parisiens, le deuxième chez les cheminots et chez les enseignants. Où en est le dialogue? Que dit la base? Que veulent les syndicats comme l'UNSA qui ne rejettent pas la réforme en bloc? Laurent Escure avec nous dans un instant. Les Algériens ont peu voté, mais ils ont un nouveau président. Pas si nouveau d'ailleurs, c'est un ex-fidèle de Bouteflika, aussitôt conspué par la rue. La politologue Khadija Mohsen Finan viendra nous éclairer sur ce face-à-face interminable entre un pouvoir agonisant et cette contestation qui ne faiblit pas. Au sommaire également, un grand patron et un très grand danseur, l'ex-PDG de Colas, Hervé Lebouc, va nous expliquer pourquoi il soutient depuis 10 ans la compagnie d'Akram Khan qui joue en ce moment son dernier spectacle à la Villette. Et puis Varda, éternelle, Agnès Varda, célébrée dans le monde entier 9 mois après sa mort. Ses films sont projetés, réédités, une intégrale en DVD vient de paraître. Sa fille, la productrice Rosalie Varda, sera au micro de C'est arrivé cette semaine.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Laurent Escure.
Bonjour.
Où en est-on ce samedi matin, 3 jours après les annonces du Premier ministre? Vous discutez avec lui, il y a un rendez-vous prévu?
Alors je l'ai eu, il a fait le tour des partenaires sociaux jeudi. Donc
il vous a appelé?
Il nous a appelé. Il m'a appelé, donc on a pu discuter. Je lui ai dit ce qui n'allait pas sur son discours. C'est-à-dire que nous, on a à l'UNSA, nous n'étions pas demandeurs de cette réforme, mais nous avons joué le jeu de fabriquer des solutions pour l'intérêt des personnes qu'on représente. Donc on avait on a obtenu par exemple que 12 générations, c'est-à-dire que la génération 63 devait être la première concernée, ouais. C'est finalement la génération 75. On a obtenu ça, c'est une demande 100% UNSA, pas pour sacrifier celles qui viennent après, mais parce qu'on pensait qu'il était raisonnable que celles qui étaient à proximité de la retraite puissent être tranquillisées par cette réforme qui quand même bouscule beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est qu'on avait obtenu qu'au moment de la bascule pour les autres générations, on ait 100% de droits acquis dans l'ancien système, là aussi pour qu'il y ait une forme de transition douce, ce qui laissait du temps pour reconstruire des carrières, revoir la qualité de vie au travail, travailler sur la pénibilité, restructurer tout un tas de choses pour rendre compatible le monde du travail aujourd'hui avec cette réforme d'ampleur telle qu'elle est prévue.
On va revenir au fond. Mais c'est pour l'essentiel l'âge d'équilibre ou âge pivot à 64 ans.
Mais il y a un mais, c'est-à-dire qu'on avait encore du flou sur tout un tas de secteurs professionnels. Je pense à l'éducation. Visiblement, des choses avancent dans le bon sens, mais on n'est pas encore complètement rassuré. On a à la SNCF, à la RATP, des collègues qui attendaient que leur contrat social soit respecté. Il ne l'est que pour partie. Et on a d'autres catégories hospitalières territoriales qui sont dans l'attente de certains gestes.
On va revenir sur tout ça.
Et il y a la ligne rouge paramétrique, c'est-à-dire que qui était la mauvaise surprise du mercredi. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'âge d'équilibre, de l'âge pivot qui était contenu dans le rapport Delevoye et qui devait s'appliquer finalement maintenant en 2037 pour les premiers qui partiront avec le système à points, mais dès 2022, l'ensemble des salariés français vont devoir travailler plus longtemps pour des questions d'équilibre financier. Et donc cette mesure paramétrique a été un chiffon rouge supplémentaire à une situation déjà très tendue.
On va revenir sur le fond de ce que vous approuvez et de ce que vous rejetez. On a bien entendu que vous n'étiez pas un adepte du tout ou rien. Vous l'avez dit, quand c'est tout ou rien, généralement, au final, c'est tout. Mais sur le dialogue, simplement, vous êtes prêt à continuer la discussion sans préalable? Il y a un rendez-vous prévu ou pas?
Alors, le rendez-vous n'est pas fixé. J'ai compris qu'il y en aurait sans doute un, et tant mieux, parce que nous...
Avant mardi?
Je n'en sais rien. Je n'ai pas de visibilité sur le calendrier. Je ne fixe pas celui du Premier ministre. Je m'adapterai au sien. Nous, à l'UNSA, on est en permanence à la table de négociation, dès qu'on peut, parce qu'il y a une particularité dans le syndicalisme français, notamment sur les grands sujets de société, c'est de penser qu'on ne fait qu'avancer positivement, alors que la réalité du syndicalisme dans de nombreuses entreprises privées, c'est parfois de limiter la casse. Donc, que ce soit pour créer des avancées ou pour limiter la casse, nous, on sera toujours présent à la table de négociation. Il faut juste que le Premier ministre ait des choses à nous dire.
Pourquoi c'est important le calendrier ? Parce que il y a les congés de Noël et vous avez cette question sur la trêve. Est-ce que vous, à l'UNSA, je rappelle, deuxième syndicat de la SNCF, premier à la RATP, est-ce que vous envisagez au moins une pause pour que les Français puissent se déplacer pendant les fêtes de fin d'année ?
La pause peut venir vite. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que les grèves, notamment à la SNCF, sont des grèves de 24 heures reconductibles. Donc là, on a un rendez-vous social, notamment à cause de cette mesure punitive concernant l'ensemble des salariés dès 2022. Et puis les autres sujets dont j'ai parlé tout à l'heure, mardi prochain. Donc il y a un rendez-vous social très important mardi. Donc il ne faut pas s'attendre à des grandes améliorations du trafic avant mardi ou mercredi. Et puis il faut que le gouvernement nous dise quelque chose. Si ça vient après mardi, il faut faire le rétro-calendrier. C'est-à-dire que pour que les trains roulent, globalement, il faut à peu près 48 heures le temps de techniquement réinstaller tout dans le bon sens. Je parle rouler intégralement et avec une amélioration dès les premières 24 heures. Oui. Donc le gouvernement a un enjeu très lourd. Personne n'a envie d'ennuyer les Français. Hein. Quand on fait grève depuis déjà 10 jours, les collègues de la SNCF et de la RATP, ils ne sont pas ravis que ça crée des perturbations et qui ennuient les usagers. Ils ont besoin d'avoir un respect de leur contrat social. Le gouvernement l'a donné pour moitié. Il faut qu'ils fassent l'autre moitié du chemin.
Et l'autre moitié du chemin, elle peut se faire en 2 jours ou 3 jours. Vous pensez vraiment, Laurent Escure ?
Franchement.
Parce que le débat sur la pause, c'est pas la résolution du conflit. C'est juste éventuellement une trêve pendant les congés de Noël, quitte éventuellement à reprendre le mouvement en janvier.
Pour arriver vers cette solution, si le gouvernement, il reste quelques dizaines de milliers de personnes concernées par un problème à la RATP et la SNCF, si jamais on obtenait que ces personnes-là voient leur contrat social garanti, les choses se descendraient très vite. Et c'est, je le répète, quelques dizaines de milliers de personnes, c'est 0,2 ou 0,3% des 25 millions de Français concernés par cette réforme de retraite. Donc franchement, il serait raisonnable de la part du gouvernement de faire ce signe de détente qui amènerait progressivement peut-être, mais rapidement si jamais les choses allaient jusqu'au bout, une détente et donc du fait que la circulation reprenne.
Là, vous venez de nous confirmer précisément que ce sont quelques dizaines de milliers de personnes, de salariés qui bloquent le pays en ce moment.
C'est pas, ils bloquent pas le pays. Hein. D'abord, Paris n'est pas la France.
Une bonne partie de la région parisienne et le trafic SNCF en sens.
Paris n'est pas la France. Et après, vous pouvez pas reprocher à des gens qui ont un droit de grève de faire grève. Le gouvernement aurait pu éviter ça. Je veux le dire avec beaucoup de sérieux. J'avais proposé tout un tas de solutions dès la fin du mois de septembre, début octobre. J'ai senti qu'il y avait eu une hésitation à ce moment-là pour arbitrer, c'est-à-dire que les arbitrages qui ont été rendus mercredi le soient beaucoup plus tôt, ce qui aurait permis soit de faire déjà des concessions, soit de pouvoir poursuivre le dialogue avant la fameuse date du 5 décembre. Le gouvernement a décidé d'enjamber la date du 5 décembre. Et quand un mouvement social est parti, c'est très dur d'en sortir quand on n'a pas satisfaction sur les revendications. Donc il y a une vraie responsabilité du gouvernement.
Alors, faute de pause pour la grève, on va marquer une pause dans cette interview avant de voir avec vous, Laurent Escure, ce que vous attendez précisément maintenant du gouvernement.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, pour C'est arrivé cette semaine.
Avec le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure, qui, comme la CFDT, appelle l'ensemble des salariés à faire grève et à manifester mardi prochain. Sur le principe, Laurent Escure, vous êtes favorable à l'instauration d'un système universel par points ?
Nous, on n'était pas demandeurs de cette réforme. On pensait que la prise en compte des réalités des nouvelles générations pouvait se faire par la convergence des systèmes existants sur une période beaucoup plus longue. Voilà. Mais comme notre intérêt, c'est pas de laisser le gouvernement écrire tout seul sa réforme. On s'est engagé très vite dans un processus de négociation, comme je le disais tout à l'heure, soit d'accord, pour obtenir des choses en positif. On voit l'intérêt pour les toutes nouvelles générations qui vont avoir une alternance de métiers, passer d'un statut à l'autre, d'un système qui soit plus simple. Mais au nom de la simplicité, on voulait pas perdre ni les principes de solidarité, ni les principes de justice.
Êtes-vous favorable aussi à la suppression des régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP ?
Alors, c'est ce que je viens de vous répondre, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il pouvait y avoir une transition beaucoup plus douce que celle qui a été prise.
Oui, mais là, le système universel fait que, voilà, par définition...
Là, il y a des réponses... moi, j'avais prévenu le gouvernement qu'on ne serait pas en situation, nous, l'UNSA, d'applaudir cette réforme. On pourrait en pointer les aspects qui pourraient aller dans le bon sens, mais que notre job, ça serait de regarder comment, à la fois, on défend l'intérêt général, certes, mais également l'intérêt particulier de nos collègues. Donc, les choses se passeront. Elles auraient pu se passer encore plus en douceur. Voilà, on en est là.
Alors, je voudrais que vous nous expliquiez maintenant pourquoi cette idée d'âge pivot ou d'âge d'équilibre à 64 ans vous fait horreur, alors que ce départ au-delà de 62 ans, il est déjà effectif pour des millions de salariés, et c'est d'ailleurs le sens de la réforme Touraine qui allonge progressivement la durée de cotisation jusqu'à 43 ans pour une retraite à taux plein.
Vous voyez bien, Patrick Cohen, dans quel état est le pays, de tensions sociales, parfois démocratiques. Faire une réforme qui engage tous les Français est quelque chose de très anxiogène. Chacun regarde midi à sa porte, se projette dans son avenir, celui de ses enfants. Donc c'est un grand dossier qui est très complexe à aborder.
Mais justement, si on fait une réforme, c'est donc une loi qui se met en conformité avec la réalité déjà.
Oui, mais on avait prévenu le gouvernement. Faire une réforme qui est déjà complexe et y ajouter des paramètres budgétaires ou des côtés punitifs supplémentaires à ceux existants déjà, c'était la mauvaise solution. Parce que ce n'est pas seulement le départ, l'âge pivot à 64 ans, qui déjà pose problème en soi, mais qui pouvait être projeté pour 2037. C'est dès 2022, la personne qui doit partir à la retraite en 2022, le Premier ministre mercredi dernier lui a dit « Tu avais 62 ans, tu avais l'intégralité de tes trimestres dans le système tel qu'il était prévu. »
À condition d'avoir cotisé 42 ans et demi. Oui.
C'est ça. Eh bien non, finalement, on fait la réforme, mais en plus, tu ne pars pas à 62 ans avec tes trimestres cotisés. Tu dois faire des trimestres en plus. Ou alors, il y aura un malus. C'est la solution pour équilibrer le système qu'a choisi le gouvernement, qui est une solution 100% MEDEF. Alors nous, on a d'autres options pour équilibrer le système.
Mais l'équilibre financier, c'est un sujet pour
vous, c'est un sujet parce que c'est un sujet parce qu'on pense que on ne veut pas ni d'un système par capitalisation où c'est le chacun pour soi, ni d'un système que j'appelle étatisé, c'est-à-dire où on prendrait de l'argent par la fiscalité pour financer notre protection sociale. Quand on fait ça, comme on ne peut pas flécher l'impôt vers une dépense de protection sociale, ça veut dire qu'on laisserait la main aux parlementaires chaque année pour déterminer le montant des pensions. Donc on veut le système de répartition.
Donc c'est la solidarité qui doit jouer.
C'est ça, c'est les salariés payent pour ceux qui sont à la retraite.
Donc
il faut un équilibre.
Et l'équilibre,
il faut un équilibre financier, il faut une trajectoire d'équilibre. Là on est dans l'épaisseur du trait. 8 à 12 milliards sur les 340 milliards, on est à 0,2 ou 0,3% de PIB sur le déficit. Il est passager par rapport à la démographie des baby-boomers et des post-baby-boomers. On a d'autres solutions. On propose, la solution que je propose, c'est de confier à la gouvernance du futur système de retraite qui va s'installer très vite et qui doit installer la trajectoire de transition, de s'occuper de ces questions d'équilibre avec un cocktail, peut-être prenant un peu dans un fonds de réserve disponible quelques milliards pour équilibrer à court terme, et deuxièmement, regardant du côté des cotisations, et notamment des cotisations patronales, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les seuls salariés qui payent l'équilibre de ce système. La solidarité, elle doit être pleine et entière, y compris celle des employeurs.
Les entreprises ne sont pas déjà beaucoup mises à contribution
Je ne sais pas. Je ne sais pas si elles sont beaucoup mises à contribution. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont beaucoup aidées aussi. On a parlé du CICE. Est-ce que ça a permis et mis un impact sur la création d'emplois? Peut-être que ça en a sauvé des emplois, pour être très honnête. Mais est-ce que ça a créé des emplois? Je n'en sais rien. C'est des paquets de milliards aussi dans ce sens-là. Les entreprises n'ont pas trop à se plaindre des choix politiques de ces dernières années.
Dernière question, Laurent. Est-ce qu'en dehors de cette question d'âge pivot, est-ce que les questions catégorielles peuvent être résolues pour les cheminots, pour les enseignants, là, dans les jours à venir?
Je le souhaite. J'appelle le gouvernement avec les ministres concernés, avec les chefs d'entreprise concernés, à trouver des solutions qui permettent d'apporter les garanties qui sont attendues par ces personnels et par ces collègues qui chaque jour qui passe, voient leur exaspération grandir. Donc il y a une possibilité de trouver une issue à ce conflit social. La balle est dans le camp du gouvernement. J'attends avec impatience les réponses que Édouard Philippe nous fera.
Nous les attendons aussi. Merci Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Merci
à vous. Avec plaisir.
Europe 1.
Dans un instant, l'Algérie, un nouveau président et une contestation qui se poursuit. On voit cela avec la politologue Khadija Mohsen Fina.
Europe 1. Vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
C'est donc une marée humaine qui a déferlé hier dans les rues d'Alger, comme chaque vendredi et pour la 43e fois. Mais ce vendredi-là était celui de la proclamation d'un nouveau président Abdelmadjid Tebboune, un ex-fidèle du président déchu Bouteflika, aussitôt élu, aussitôt conspué, et pas très bien élu d'ailleurs lors d'un scrutin marqué par une abstention record, plus de 60% officiellement. Bonjour Khadija Mohsen Fidan.
Bonjour.
Politologue, enseignante, chercheuse à Paris Panthéon Sorbonne, Paris 1, auteur avec Pierre Vermeren de Dissident du Maghreb chez Belin. Quel sens donner à cette élection ?
Alors, depuis quelques années, l'armée essaye de donner une légitimité, de faire redémarrer le système chaque fois qu'il y a crise, chaque fois que le pacte est rompu entre la population et le politique. Elle l'a fait en 89, elle l'a fait en 95 et elle le refait aujourd'hui au mépris total des milliers et des millions de personnes qui investissent la rue. C'est pour donner un semblant de normalité à une situation qui n'est absolument pas normale.
Tous les candidats, disent les manifestants, étaient des produits du régime, du système, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai, absolument. Ils ont travaillé dans l'équipe de Bouteflika. Tebboune aussi, celui qui a été intronisé ou élu, comme on le voudra. Mais il a été mis à l'écart au bout de 3 mois parce qu'il déplaisait fortement au frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, et d'une nouvelle oligarchie financière, les capitaines d'industrie, parce qu'il voulait mettre de l'ordre dans la rente et dans la corruption.
Alors, qui dirige réellement l'Algérie ?
C'est l'armée.
C'est l'armée.
C'est l'armée depuis l'indépendance.
C'est Gaïd Salah ?
Aujourd'hui, c'est Gaïd Salah.
Général, chef d'état-major de l'armée, dont Tebboune est réputé être
proche.
Un proche. Oui,
si vous voulez, traditionnellement, l'armée a toujours gardé les principaux dossiers. Mais il y avait aussi le FLN qui gérait les affaires courantes et il y avait la police politique, c'est-à-dire la sécurité militaire qui s'est appelée DRS par la suite. Donc il y avait une petite répartition. Aujourd'hui, c'est seulement l'état-major et seulement un homme, Gaïd Salah, qui est face à, je dirais pas une population, mais à une rue en colère.
Une rue en colère qui continue d'être en colère, qui continue de l'être d'ailleurs pacifiquement. Ça paraît vu d'ici assez miraculeux, ça ne tourne pas à l'affrontement. Comment évolue ce mouvement ?
Je crois que cette sérénité, et il le répète, il le scande, cette selmille, c'est la première fois qu'on entend ça depuis les printemps arabes, elle est vraiment pensée. Ils ont d'abord observé ce qui s'est passé durant les années 90, où la violence profite toujours au régime, surtout quand c'est l'armée qui est aux commandes. Et cette armée algérienne, elle est réellement surarmée, avec un matériel très puissant et très moderne. Ils ont observé aussi ce qui s'est passé en Syrie, quand Bachar el-Assad a poussé les Syriens à la violence pour mieux les écraser. Donc ce regard, si vous voulez, dans l'espace et dans le temps, leur a donné une certaine, un calme et une certaine maturité politique.
Mais maturité politique pour déboucher sur quelle issue politique ?
Non, vous savez, je crois que et les historiens le montrent très bien. Dans les transitions, l'histoire nous montre que les choses ne se font pas tout de suite. Quand il y a eu le printemps arabe depuis 2011, on a parlé de régime et de pays immobiles concernant l'Algérie en disant que ça ne bougerait jamais, que la rente était distribuée, que l'armée était trop puissante et que c'était le pays qui allait venir contredire ce printemps qui n'avait plus rien de printemps. On le voit bien, ça continue de bouger. Ça continue de bouger au Soudan, en Algérie, au Liban et ailleurs, parce que tant que les problèmes fondamentaux ne sont pas réglés, c'est-à-dire les inégalités, c'est-à-dire la rente, c'est-à-dire la corruption, on aura des printemps et on aura des soulèvements.
Mais ma question, c'était quelle peut être l'issue politique ?
Alors, l'issue politique, c'est que ce régime ne va pas tomber du jour au lendemain. Mais il est déjà ébranlé et on voit que déjà le président qui a été élu, même s'il est mal élu, il parle de prendre langue avec la rue. C'est-à-dire que par fierté, ou peut-être que son logiciel ne lui permettait pas de le faire, le chef d'état-major Gaïd Salah ne voulait pas discuter avec les manifestants. Celui-là, il dit Tebboune qu'il va le faire. Donc c'est déjà un premier pas. Et puis on va voir, l'histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer.
Elle ne fait que commencer et sur Twitter, une campagne est déjà là sur le thème « Le Irak continue », Not my president, je ne sais pas si je dois le faire avec l'accent anglais ou
algérien.
Ou algérien.
Oui, en tout cas, ils sont dans la rue, ils continuent à être là, et le Hirak, c'est vrai qu'il continue.
Merci beaucoup Radisha Mohsen Finan, politologue, enseignante à Paris 1. Merci d'être venue ce matin.
Europe 1.
À suivre, Agnès Varda, dont les œuvres rayonnent 9 mois après sa disparition. On en parle avec sa fille Rosalie. Et puis d'abord, une belle histoire de mécénat d'entreprise entre Colas, le leader mondial des routes, et une icône de la danse contemporaine, Akram Khan.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Je vais accueillir maintenant un grand patron pour nous parler de danse contemporaine et d'un très grand artiste, Akram Khan. C'est du mécénat d'entreprise, phénomène dont on parle peu, mais auquel participent 80 000 entreprises engagées dans des causes sociales, culturelles ou éducatives pour environ 2 milliards d'euros par an. Bonjour Hervé Lebouc.
Bonjour.
Vous étiez depuis 12 ans le PDG de Colas, filiale du groupe Bouygues et leader mondial de la construction de routes. Vous présidez pour quelques semaines encore la fondation Colas. Vous arrêtez. Retraite ?
Oui, tout à fait. Après 43 ans chez Colas.
Et au même moment, Akram Khan, le chorégraphe et danseur britannique devenu icône mondiale, présente en ce moment à La Villette son dernier spectacle en solo. Il arrête lui aussi des adieux à la scène à 45 ans, après 10 ans de partenariat entre Colas et la compagnie Akram Khan. C'est venu comment ? Qu'est-ce qui relie le bitume et le katak, cette danse indienne traditionnelle?
Écoutez, au début, ça a été difficile pour lui surtout d'accepter d'avoir un partenaire qui soit une entreprise de travaux publics, qui est plutôt en botte et dans la boue plutôt que sur scène. Et puis, on a eu des rendez-vous et on a échangé. On a trouvé qu'on avait un parcours qui se ressemblait. Et il a un très joli mot. Il dit finalement, on emmène les gens en voyage, tous les deux. Donc nous, sur la route, et lui, dans sa spiritualité. Puis, on est devenus amis. Et ça fait 10 ans qu'on le soutient. On a soutenu 7 de ses programmes. Dans le dernier, Xenox, où lui aussi prend sa retraite en tant que danseur. Mais pas en tant que chorégraphe.
Parlez-nous de cette ultime solo, Xena. C'est un hommage aux combattants indiens envoyés dans les tranchées de 14-18.
C'est l'histoire d'un fantassin indien qui vient aider les troupes britanniques pendant la Première Guerre mondiale, effectivement. Alors, je n'ai pas encore vu, puisque j'y vais mardi.
Oui.
C'est le jour où Colas a réservé La Villette pour inviter des partenaires, des amis à cette représentation.
Et on rappelle qu'Akram Khan est d'origine bangladaise,
oui.
Par ses parents, même s'il est né près de Londres. C'est donc une relation d'amitié et de confiance. Vous l'avez accompagné partout au fil des ans, Hervé Lebouc. Je rappelle, il s'est emparé l'été dernier de la cour d'honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon. Il a chorégraphié la cérémonie d'ouverture des JO de Londres. Il a été honoré par la reine Elisabeth.
Alors effectivement, on l'a connu, on a fait notre premier partenariat en 2008. Alors, il était déjà connu, hein, mais pas la star mondiale que l'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous avons créé un logo commun, Akram Khan Company et Colas, et qui est sur toutes les affiches lorsqu'il il présente ses spectacles.
Est-ce que vous discutez avec lui de ses choix artistiques ? Est-ce que le mécène, parfois, se fait producteur, en quelque
non,
sorte ?
Non, on reste très humble en la matière. Je ne suis pas un grand spécialiste de danse contemporaine. Il est un des meilleurs mondiaux et je lui laisse bien sûr ses choix.
Mais je pense que c'est important d'éclairer aussi les auditeurs sur les relations qu'il peut y avoir entre un mécène et un artiste. Ça ne s'arrête pas à un simple chèque, il y a vraiment...
Non, je pense souvent il avait un duo avec une grande danseuse française qui était prévue et où on devait l'accompagner. Et la veille, lors de son entraînement avec elle, il s'est blessé, cassé un ménisque. Et donc, il était très embêté parce que sa compagnie était fragile. Et sans nous, elle aurait pu avoir des difficultés. Et je suis allé le voir à son hôtel, il était la jambe dans le plâtre. Et je lui ai dit, vous inquiétez pas, Akram, on va continuer. Ça sera dans un an peut-être ou dans un an quand vous serez prêt. Et là est née notre amitié professionnelle, bien sûr.
Qu'est-ce que ça rapporte à une grande entreprise comme la vôtre ? Est-ce qu'il y a un intérêt direct à ces actions de mécénat ?
C'est pas l'objectif premier, mais il est clair que toutes nos actions dans le mécénat, vous le rappelez tout à l'heure, on n'est pas que dans la danse, on est dans la musique aussi, parce qu'on est dans 50 pays et que la musique et la danse peut être compréhensible par tout le monde. On aide aussi la peinture contemporaine. Tout cela donne une image de marque au groupe qui se différencie de ses concurrents et qui, au début, il y a 30 ans, mon prédécesseur a inventé la Fondation Colas, qui aide la peinture contemporaine en achetant chaque année une quinzaine de toiles sur le thème de la route. Et au début, l'homme de chantier était un peu... Qu'est-ce qu'il fait? Je parle de mon prédécesseur. Pourquoi la peinture? Ça n'a rien à voir avec notre métier. Ouais. Et petit à petit, ça a permis à nos collaborateurs de s'acculturer à la peinture contemporaine et d'accepter et d'être très fiers, parce qu'on parle beaucoup de Colas, de notre métier, mais aussi de ça, de la danse, de la musique et de la peinture.
On parle un peu de votre métier, Hervé Lebouc. Mmh. Vous êtes ingénieur de formation. Ouais. Qu'est-ce qui a évolué au fil des ans dans la fabrication des routes?
Ah, écoutez, Colas est né d'une invention, parce que Colas, ce n'est pas un monsieur qui a inventé et qui a créé cette société, c'est cold asphalt, c'est-à-dire bitume froid. Et ça a été le premier revêtement imperméable qui a permis d'éviter les nids de poules sur les chaussées empirées. Et depuis, on a beaucoup évolué, on a la route solaire dont on a beaucoup parlé, on a des systèmes de signalisation qui sont lumineux et télécommandés. Le numérique et l'intelligence artificielle vont sûrement complètement révolutionner nos métiers.
C'est-à-dire que les routes vont servir d'éléments de guidage pour les véhicules.
Ça deviendra des médias, comme Europe 1.
Ça deviendra des médias. La route solaire, oui, c'est vrai qu'on en a parlé, mais ça a été aussi assez critiqué. Oui. Beaucoup ont présenté ça comme un gadget.
Non, le problème, c'est qu'on a inventé ça il y a 4 ans, et on l'a présenté à ce moment-là à la presse, et ça a fait un buzz mondial. Alors qu'on était encore en laboratoire, en recherche et développement. Ouais. Donc on a fait une cinquantaine de chantiers dans le monde. Certains sont bien passés. Petit à petit, on a fait évoluer le produit. Et là, on est en train de le commercialiser vraiment. Alors là, pour un produit qui est fiable.
Et donc ça va apparaître. Et donc, effectivement, installé à quel endroit?
La première déclinaison de Wattway, qui est le nom de notre route solaire, c'est un passage piéton lumineux à l'Annapoule. Mandelieu-l'Annapoule. Et on en a un deuxième qui est prévu pour les sorties des pistes d'Orly. Enfin, de l'aérogare d'Orly.
De l'aérogare d'Orly, et donc qui vont alimenter en électricité quoi, des éclairages
des passages piétons qui s'illumineront lorsqu'un piéton arrive ou lorsqu'une voiture arrive.
Ah d'accord. Pour
qu'il soit plus facilement repérable.
Hervé Lebouc, ex-PDG de Colas, président de la fondation Colas pour quelques semaines encore. Et Xenos par la compagnie Akram Khan, c'est jusqu'au 22 décembre à la Villette. À Paris. Merci d'être venu nous en parler.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci à vous. Europe 1. Dans un instant, on va célébrer Agnès Varda et on n'est pas les seuls à le faire en ce moment. Rosalie Varda sera avec nous.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Quoi de neuf dans la vie culturelle? Agnès Varda. 9 mois après sa disparition, ses œuvres sont fêtées, projetées, célébrées un peu partout. Son dernier film, Varda par Agnès, vient de sortir aux États-Unis et une intégrale Varda paraît chez Arte en 24 DVD, 60 ans de cinéma, 54 heures d'images. Bonjour Rosalie Varda.
Bonjour.
Avec votre frère Mathieu Demy, vous êtes la gardienne de la mémoire et du patrimoine de cette œuvre qu'on ne cesse de diffuser, de redécouvrir. C'est prodigieux, non, ce qui est en train de se passer?
C'est assez extraordinaire, oui. Alors, j'aime pas être trop une gardienne.
Mais oui, gardienne, c'est pas terrible comme nom, mais bon.
Non, mais disons qu'on aime bien dire avec mon frère Mathieu qu'on est là pour protéger ces films, pour les partager. Et puis peut-être aussi se rendre compte comment Agnès était aimée dans le monde entier. Comment elle était vraiment, j'allais dire, elle faisait partie du quotidien de beaucoup de personnes, des anonymes justement. Ces fameux anonymes qu'elle aimait beaucoup.
Vous étiez aux États-Unis pour le lancement de Varda par Agnès?
Oui, j'ai entamé une sorte de petite tournée qui a commencé en août, fin août, au festival de Telluride, où j'avais un peu demandé, un peu d'une façon comme une groupie, à Martin Scorsese de venir présenter le film avec nous. Et à notre grand étonnement, il a accepté. Il est venu présenter Varda par Agnès. Ça a été quand même un moment assez incroyable, vous savez, de se dire espèce du mythe américain avec tout ce que ça veut dire, de ce que ça veut dire autour de la magie, de la production, des enjeux financiers qui n'ont rien à voir avec le cinéma de notre petite Agnès.
Ce qui est formidable, c'est que Varda par Agnès, qui est bien là, hein, dans le coffret intégral, avec Visage Village aussi. Varda par Agnès, où votre mère raconte son chemin de cinéma, ce qu'elle a voulu montrer toute sa vie, ça fonctionne comme une introduction, une porte d'entrée à son œuvre, et donc c'est bien qu'il soit diffusé, vu largement, pour permettre d'explorer d'autres choses.
Oui, je crois que le vrai projet d'Agnès, ça c'est une idée un petit peu qu'on a eue toutes les deux en 2015, donc on a mis longtemps à finir ce projet, c'était un peu l'idée, est-ce qu'on peut faire une sorte de conversation, comme elle dit avec beaucoup d'humour, à tendance de monologue, sur qu'est-ce que c'est une image, comment regarder une image, peut-être donner un peu des clés sur le cinéma, sur son parcours, sur ses envies. Donc c'est pas quelque chose où on doit raconter tous ses films, mais c'était un choix, c'est subjectif. On s'est arrêté, il y a eu Visage Village entre-temps, on l'a repris. Et puis vraiment elle s'est attelée à ce projet en disant vraiment tu as raison, je crois que l'éducation à l'image c'est très important, et moi je lui dis c'est très important l'éducation à l'image. On voit comment on est inondé d'images, plus des images nulles, comment choisir au milieu de tout ça, ouais. Voilà, c'était une belle aventure en tous les cas.
Varda par Agnès, qu'elle était venue présenter au festival de Berlin en février, un mois et demi avant sa mort, et en conférence de presse, elle a fait ses adieux, annoncé qu'elle allait s'effacer après avoir ainsi réagi quand l'animatrice de la conférence l'a présentée comme une légende.
Non. Non. Ça marche, hein?
Ça marche, ça marche.
I'm not a legend. I'm still alive. Well, I have to prepare myself to say goodbye and to go away. It's fine, you know, it's just slowing down to get the peace, necessary peace.
Je dois me préparer à dire au revoir et à partir. Il faut juste ralentir un peu pour trouver la paix nécessaire. Rosalie Varda, vous étiez à ses côtés à ce moment-là. C'était sa dernière apparition publique.
Oui, on sent l'émotion dans sa voix. On sent que là, elle s'est dit, c'est terminé, quoi. Je veux dire, ça sera ma dernière apparition publique.
Elle savait que c'était sa dernière.
Oui, elle était très malade. Agnès avait un cancer des poumons à un stade très avancé, et on a fait une course contre la montre pour finir le film et pour emmener toute l'équipe à Berlin, et on a fêté le film à Berlin, et j'ai invité toutes les personnes qui ont participé au film, j'ai payé le voyage, je les ai emmenés avec nous, et ça a été un très beau moment. Vous savez, pour moi c'était en même temps très émouvant, parce que cette femme qui est ma mère, qui est quand même une sorte d'icône, même si c'est pas une légende, qui est quand même très autoritaire, qui est quand même une sorte de petit dragon qu'on aime. Travailler à ses côtés n'a pas toujours été facile, mais a été quand même une expérience extrêmement enrichissante sur des points qui, à mon avis, sont essentiels dans la vie d'un artiste ou d'une artiste. L'intégrité, la créativité, la curiosité. Et là, on sentait que d'un seul coup, elle était fatiguée, quoi. Et elle a pris ma main et m'a dit « Je te laisse faire la suite ». Et la suite, on essaye de la faire, c'est-à-dire de se dire que une œuvre reste. La chance des artistes, c'est qu'après leur mort, l'œuvre est là et il faut la partager, mais il faut l'éditorialiser, il faut la moderniser, il faut aller vers les jeunes, essayer de leur faire voir des vieux films, hein, leur expliquer que c'est peut-être un vieux film, mais une fois qu'ils seront dans une salle de cinéma et qu'ils seront dans le noir, c'est un film tout court. Et s'il est bon, ben, ça sera un moment de partage et de joie.
Il nous reste tout ça, tous ces moments d'humanité, de poésie, de rencontres qu'elle a créées ou qu'elle a captées et qu'elle a partagées et qu'on retrouve au fil de sa filmographie dans ce coffret DVD. Agnès Varda, c'est aussi une grande figure féministe. D'abord parce qu'elle a mené sa carrière comme elle l'a voulu, en toute indépendance. Elle était depuis longtemps sa propre patronne, Rosalie Varda.
Et oui, vous savez... Elle a créé ça en 54 pour faire son premier film. Elle a créé une coopérative. Donc, si vous voulez, c'était assez amusant. Ils n'avaient pas d'argent. Donc, sa mère lui avait prêté 20 000 francs. Et avec ça, elle a fait la pointe courte. Et puis ensuite, elle a voulu toujours garder son indépendance. Vous savez, je crois aussi qu'elle s'est produite ou coproduite elle-même parce qu'elle faisait un peu peur aux producteurs. Et très étonnamment, elle a quand même été produite par une femme. Productrice, Mack Bodard, qui a produit Le Bonheur, qui est un film assez politiquement incorrect et qui a valu à Agnès dans les années 64-65 beaucoup de critiques par rapport à ce sujet où elle montrait un homme qui aimait deux femmes. C'était pas, elle, il aimait moins une femme que l'autre, c'était l'idée, l'amour peut-il s'ajouter ?
Et puis elle a merveilleusement illustré et enchanté le combat féministe des années 70 dans L'une chante, l'autre pas, mais est-ce vraiment du passé ? S'agit-il seulement des années 70 ?
La double journée, pauvre maman, c'est bien épuisant et c'est mal payé. Friedrich Engels l'avait dit, dans la famille aujourd'hui, l'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat.
Extrait de L'une chante, l'autre pas, film qui s'achève avec vous, sur vous, Rosalie Varda. Vous aviez 18 ans, il vous est dédié ce
oui,
film.
Oui, ce film est le cadeau pour mes 18 ans. Et vous voyez, c'est ça, avoir une mère artiste, c'est aussi avoir cette formidable... j'allais dire, espèce de truc incroyable. Moi, je passais mon baccalauréat. En fait, qu'est-ce que j'avais ? Bon, j'étais féministe parce que ma mère m'avait enseigné, à mon avis, c'est même pas du féminisme, c'est du bon sens. Hein. Faire des études, être indépendante, gagner sa vie, c'est pas être féministe, ça, c'est juste être normale. Vous voyez ? Et puis, ce film est arrivé dans sa vie. Elle a toujours dit... ça va être difficile, il vaut mieux que je fasse chanter les filles, raconter un petit peu la double journée, parce que si on leur dit comme ça les hommes en face, ça va être un peu plus rude. Ouais. Moi j'adore ce film, qui est complètement loufoque, féministe, joyeux, qui aime les hommes. Vous savez, ma mère avait un féminisme, je trouve très moderne, qui disait le féminisme c'est pas contre les hommes, c'est avec les hommes, et puis on peut aussi aller faire une ratatouille, hein. Ça n'empêche pas d'aller faire la cuisine. Vous voyez, c'est ça la vie aussi. Hein.
Il faut voir ou revoir tous ces films. L'une chante, l'autre pas, qui est effectivement un film formidable qu'on peut revoir aujourd'hui avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Cléo de 5 à 7, Jane B, les daguerréotypes, les documentaires californiens, ceux liés aux œuvres de Jacques Demy, les raretés, les inédits. Il y a dans le coffret une publicité pour Tupperware à la façon de Jacques Demy. C'est très réjouissant. Il y a aussi les premiers pas devant la caméra du jeune Gérard Depardieu en 66. Il a 18 ans pour un film qui ne s'est pas fait, mais on a gardé les essais.
Les anges de nos campagnes, campagne publicitaire, terre des hommes, hommes de bonne volonté, volonté du peuple, peuple en colère, l'air du temps, tant de cochons, cochons de payants, l'argent, l'argent, l'argent. Vous n'avez pas un franc ? Donnez-moi un franc.
Oh non, pas du tout.
Vous avez besoin d'argent pour faire des cadeaux.
Oh non, monsieur.
Donnez-moi un franc.
Extrait de Christmas Carol avec Depardieu qui vous a gardé. Rosalie Varda, il a été votre babysitter ?
Il a été mon babysitter, oui, ça c'est vrai. Et je dois dire que je pense que mes parents, c'était assez amusant de... Vous savez, il avait les cheveux longs, une espèce de pique-nique, comme on disait à l'époque, avec un grand manteau, avec des poils de chèvre, vous savez, vous puez à 15 mètres. Et effectivement, il me gardait. Moi, j'aimais beaucoup parce qu'on discutait. Bon, je ne sais pas si maintenant, aujourd'hui, on laisserait sa jeune petite fille avec, comme ça, un être si particulier qui est Depardieu, qui est pour moi un acteur extraordinaire et que je respecte et que j'aime aussi pour sa folie et pour justement cette espèce d'exubérance.
Agnès Varda et son cinéma dans tous ses états, qui fait d'ailleurs l'objet d'une vente de Noël aujourd'hui.
Oui, alors on s'amuse.
Dans sa maison, 83 rue d'Aguerre.
Oui, vous savez, ma mère.
C'est la maison rose.
Oui, elle aimait faire la vendeuse, la marchande. Donc aujourd'hui, on fait une petite vente de Noël avec tout le monde au 83 rue d'Aguerre.
L'intégrale Agnès Varda chez Arte France et Ciné Tamaris. Merci beaucoup, Rosalie Varda.
Merci beaucoup.
C'est fini dans un instant. Médiapolis, Catherine Ney, Olivier Duhamel. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Patrick. Nous recevons Philippe Bas, sénateur très modéré, qui va tenir des propos pas forcément modérés.
C'est pour ça que vous parlez bas.
Très bas, très bas.
Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.